Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est un cri d'alarme, un avertissement publié hier dans les colonnes de la Tribune par l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta.
L'inertie conduit au déclin. L'Europe a besoin d'un grand coup de fouet maintenant.
Un constat partagé par Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, a remis la semaine dernière à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, un rapport inquiétant sur le décrochage économique des 27 face aux États-Unis et à la Chine.
Faisons le point sur la situation. Ne vous mentez pas à vous-même. Nous devenons de plus en plus pauvres chaque année.
Mario Draghi confie en faire des cauchemars. Si rien ne change, assure-t-il, l'Union européenne est condamnée à une lente agonie. Un diagnostic pris au sérieux, d'autant qu'il émane d'un homme surnommé Super Mario, depuis qu'il a sauvé l'euro lors de la crise de la dette grecque en 2012.
2012 restera dans les mémoires. C'est l'année de la relance de l'euro.
Mario Draghi peut-il une nouvelle fois sauver l'Europe du naufrage? Comment concurrencer les États-Unis et la Chine? L'ancien patron de la BCE préconise aux 27 de contracter un nouvel emprunt commun, comme lors de la crise Covid. Il table sur un emprunt de 700 à 800 milliards d'euros par an pour investir massivement dans la défense, l'intelligence artificielle ou les technologies vertes. Sauf que cette idée est loin de faire l'unanimité. Des États membres, historiquement partisans de la rigueur budgétaire, comme les Pays-Bas et l'Allemagne, se disent opposés au renouvellement d'un emprunt commun. Alors les préconisations de Mario Draghi seront-elles appliquées? L'Union européenne est-elle vraiment dans une si mauvaise passe? Entre déni et intérêts nationaux, Super Mario peut-il provoquer un électrochoc en Europe?
Nos trois invités, David Kella, bonsoir, économiste, maître de conférence à l'Université d'Angers. Votre dernier essai, La gauche peut-elle combattre le néolibéralisme, est paru aux éditions Le Bord de l'eau. Quel joli nom de maison d'édition. Et selon vous, David Kella, l'Union européenne décroche clairement par rapport aux États-Unis. Donc le constat de Mario Draghi est alarmiste mais réaliste. Par contre, c'est au niveau national, selon vous, qu'il faut investir et non pas au niveau européen. Votre voisin ne sera peut-être pas du même avis. Élie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS. Votre ouvrage « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif » est paru en 2022 chez Odile Jacob. Selon vous, Élie Cohen, l'Europe a raté trois révolutions, les trois révolutions du numérique, et les 800 milliards d'euros annuels de Mario Draghi sont les bienvenus, ils n'iront pas dans votre poche, hein, ni dans la nôtre, c'est une incitation à l'investissement à l'échelle européenne. Et Béatrice Mathieu, bonsoir madame, grand reporter à l'Express en charge des dossiers économiques. Vous avez publié d'ailleurs la semaine dernière « Draghi et le nouveau grand emprunt européen, un plan déjà morné dans l'Express, donc, et vous estimez que cette proposition de s'endetter, comme pendant le Covid, ne fait pas l'unanimité parmi les 27. Ce nouveau grand emprunt européen rêvé par Mario Draghi est donc pour vous un plan morné. Et on démarre avec le chiffre du jour.
Oui, il est conséquent. Hein. Depuis 2000, donc, le revenu disponible par habitant a augmenté deux fois plus aux États-Unis que dans l'Union européenne. Autre signe de ce décrochage européen par rapport aux Américains, en 2002, le PIB des États-Unis était supérieur de 17% à celui de l'Union européenne. L'écart atteint aujourd'hui 30%. Élie Cohen, c'est un véritable déclassement, en fait, des Européens.
Oui, tout à fait. Depuis 10 ans, on peut dire que vraiment l'Europe a décroché par rapport aux États-Unis. Et en termes de croissance, et en termes de productivité, et si on regarde de plus près, et en termes d'investissement également. Et donc...
Pourquoi ?
C'est alors
quoi
pourquoi
la cause essentielle ?
La cause essentielle, c'est que les États-Unis sont capables de penser une stratégie nationale en réponse aux défis, le défi énergétique, le défi de la militarisation des échanges, le défi militaire. Et l'Europe n'existe pas comme puissance. L'Europe, c'est une collection de pays. Mmh. C'est 27 pays qui se rencontrent, qui discutent, qui disent « Ah oui, c'est vrai, c'est triste, on a décroché, mais vous allez voir ce que vous allez voir. À partir de ce décrochage, on va être les meilleurs, on va être les champions du numérique, le champion de la transition énergétique. » Et puis, après, les moyens ne suivent pas. Mmh. Et ce qui me frappe, moi j'ai fait une petite étude, j'ai regardé les investissements dans tous ces nouveaux secteurs, le numérique, le quantique, etc. Et j'ai mis dans une colonne États-Unis, dans l'autre Europe et dans l'autre la Chine. Les rapports sont parfois de 1 à 10.
De 1 à 10. David Kayla, vous n'êtes pas d'accord avec cela ?
Non, mais déjà, ça fait plutôt 20 ans que l'Europe décroche par rapport aux États-Unis, et pas 10 ans. Et moi, il y a une question quand même qui ne soulève pas le rapport et qui m'intrigue. c'est qu'il y a 20 ans, enfin, au début des années 2000, c'était l'euro qui venait d'être créé, c'était le marché unique qui était vraiment en voie d'achèvement, c'était la stratégie de Lisbonne pour faire de l'Union européenne la puissance la plus compétitive du monde. Et on ne fait pas le bilan. Je veux dire, là, il n'y a aucun bilan des rapports précédents, des stratégies précédentes. Pourquoi ça a échoué? On décroche par rapport aux États-Unis. On ne décroche pas par rapport aux autres pays développés. Hein. Globalement, c'est les États-Unis qui sont au-dessus de tous les autres. On a une trajectoire de PIB par habitant qui est similaire à celle du Japon, de la Corée, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande.
À l'échelle du continent, hein, on parle des 27. Oui, à l'échelle du continent. Oui, c'est ça, la moyenne.
Concrètement, c'est les États-Unis qui, à mon avis, aussi la question énergétique, le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Il y a évidemment la question technologique. Mais au fond, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi l'effort d'unification de l'Union européenne engagé dans les années 90 n'a pas produit les effets.
Alors, pourquoi, Béatrice Mathieu, selon vous? Est-ce que c'est dû à trop de réglementation? L'Union a produit 13 000 actes entre 2019 et 2024 contre 3 500 lois aux États-Unis. C'est ça? C'est l'hyperbureaucratisation de l'Europe?
L'hyperbureaucratisation joue sans doute, effectivement, mais sans doute à la marge quand même dans ce retard d'investissement. Le gros problème à la base, c'est que l'Europe aujourd'hui, mais même depuis quasiment 20 ans en fait, n'assume pas le mot puissance. C'est-à-dire que la façon d'assumer sa puissance stratégique, l'Europe s'est vue comme un gigantesque marché, et donc un marché qui est forcément était puissant. Et en réalité, la puissance pas d'une nation, mais d'un groupement de pays, ne peut pas être que la puissance d'un marché. C'est aussi la puissance de la production. Et donc, la priorité qui a été donnée par la Commission pendant des années, en fait, à privilégier le consommateur et non pas le producteur, a abouti finalement à ce que l'on n'est pas aujourd'hui dans les plus grandes capitalisations mondiales, eh bien, à part des entreprises qui sont vieilles comme LVMH. C'est bien qu'on les ait, mais on n'a pas les GAFA, les fameux
les GAFA. On les a pas, ces GAFAM, justement. Pourquoi on les a pas, ces GAFAM, ces grandes entreprises qui nous permettraient de rivaliser avec les États-Unis?
La réponse est très simple. Aux États-Unis, vous avez une intensité technologique qui se marque par les investissements en R&D, par la collaboration...
Les investissements quoi ?
En recherche et développement.
Recherche et développement, voilà.
La multiplication des start-up, c'est-à-dire des entreprises émergentes, et surtout par un écosystème de l'innovation dans lequel vous avez des institutions de financement spécialisées, des laboratoires de recherche tournés vers les applications, mais branchés également sur les universités, et des entrepreneurs qui franchissent le seuil de l'université pour créer leur maison. Et cet écosystème de l'innovation, qui est parfois nourri également de grandes commandes publiques dans le domaine du spatial, de la défense, du numérique, bénéficie au plus grand marché du monde. Donc si vous voulez, lorsqu'il y a une innovation aux États-Unis, elle dispose déjà d'un marché qui n'existe pas du tout en Europe. En Europe, vous avez une collection de mini-marchés.
Juste aussi une question autour... L'énergie nous coûte plus cher à nous, Européens, qu'aux États-Unis pour la produire. Ce n'est pas aussi un problème, cette crise permanente autour du prix de l'énergie
La question,
qui explique notre pauvreté, entre guillemets.
C'est en partie vrai, mais c'est très récent, la crise énergétique. Alors que là, on parle d'un décrochage...
Depuis
le début des années 2000. On a unifié le marché européen. Je veux dire, c'était l'objet du marché unique. On a la même monnaie. Il n'y a pas eu d'effet. Et en fait, il y a une réponse à ça. Vous l'avez dit très justement. L'Union européenne, c'est un grand marché de consommateurs. Et si on veut devenir, non pas uniquement des consommateurs, mais des producteurs, il faut des politiques industrielles, il faut des stratégies commerciales. Et ça, le rapport Draghi en parle d'ailleurs. Mais il ne parle pas du fait que ces politiques industrielles, elles ont été étouffées par les stratégies de libre concurrence qui ont été au cœur du marché unique.
Il faut commencer par le commencement. Le marché unique, c'est un marché pour les consommateurs. Son objectif, c'est de démanteler. Ce n'était qu'en démantelant les champions nationaux qu'on pensait qu'on allait pouvoir construire un vrai marché européen. Le code génétique de l'Europe, c'est que c'est un marché destiné aux consommateurs qui pourchasse les positions dominantes, qui interdit l'émergence de champions européens. Madame Vestager disait que c'était une horreur, les champions européens. Donc il faut partir de là.
Non, on a fait la concurrence pour susciter l'innovation. Et par ailleurs, on a des champions. Dans le luxe, il y a bien des champions français.
BMW, BMW a été
et dans l'automobile, il y a Volkswagen, c'est la première puissance producteur automobile au monde. On a pensé que la concurrence suffirait comme politique industrielle. Et maintenant, on s'aperçoit que les subventions, notamment en Chine, aux États-Unis, elles sont au cœur des stratégies.
Alors, sur les remèdes de Mario Draghi,
À Bruxelles, la politique industrielle est considérée comme un mot obscène.
Ah.
Voilà.
Justement, les 800 milliards d'euros préconisés par Draghi, les 800 milliards d'euros peut-être qui vont aller vers l'industrie.
Est-ce que
vous dites c'est nécessaire, c'est indispensable, on aurait dû le faire plus tôt ou c'est trop tard? Quel est votre avis?
Non, mais Béatrice, évidemment, dans un monde idéal, que ce grand emprunt.
Annuel tous les ans, 800 milliards.
Bien sûr,
annuel.
Bien sûr, il serait absolument nécessaire pour essayer de combler l'écart, évidemment. Après, la question, c'est est-ce que tout le monde au sein des 27 États membres sont d'accord, tout le monde est d'accord sur ce nouveau grand emprunt? Et là, ça commence à
piquer. Alors justement, on va écouter, les Allemands sont très réticents à ces propositions. Écoutez Christian Lindner, le ministre des Finances allemand.
Auch dazu führen, dass die Schuldenaufnahme in der Europäischen Union insgesamt zu hoch ist. Jeder einzelne Mitgliedstaat der Europäischen Union muss weiter Verantwortung für die eigenen Staatsfinanzen tragen.
David Kayla, voilà. Enfin, si jamais les Allemands ne sont pas d'accord, il n'y aura pas ce grand plan 800 milliards que vous approuvez.
Oui. Alors, je ne suis pas contre. Il faut augmenter l'investissement. C'est 750-800 milliards d'euros, c'est exactement le montant de l'emprunt qui a été fait après le Covid. Mais c'était sur 7 ans. Oui. Là, on est sur 750-800 milliards par an. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'accord politique pour engager cet emprunt. C'est pour ça que je pense que si on veut augmenter l'investissement public, il vaut mieux alléger les contraintes qui pèsent sur les États individuels plutôt que de chercher quelque chose qui ne va pas se faire.
Alors, Béatrice Mathieu, après Élie Cohen.
Il n'y a pas d'accord politique, etc. Et effectivement, il y a un souci aussi, c'est-à-dire pourquoi l'Allemagne et les pays frugaux, les Pays-Bas, les pays nordiques, n'ont pas très envie de ce grand emprunt, c'est que le précédent qui a eu déjà du mal à accoucher, on n'a toujours pas aujourd'hui trouvé les recettes fiscales pour le rembourser, parce que c'est bien de faire un
grand emprunt. Le précédent, c'est celui du Covid.
Les 723
évoqué par David Kayla à l'instant. Voilà.
Au moment de la signature de cet accord-là, en février 2021, tout le monde s'était mis d'accord en disant qu'il va falloir trouver des recettes propres à l'Union européenne pour rembourser ce grand emprunt. Et aujourd'hui, alors qu'on va commencer à le rembourser dans quelques années, les sommes vont être quand même très très importantes, nous n'avons pas d'accord au sein des 27 pour rembourser cet emprunt. Comment voulez-vous que ces pays-là disent
alors,
d'accord, on va
c'est
en
une,
faire
Élie
dans
Cohen,
une proportion encore plus importante.
C'est une illusion, où les trouver, ces 750 milliards? Est-ce qu'on peut les trouver nous dit tous qu'on est hyper endettés, trop endettés,
Non, la question, ce n'est pas de trouver les 700 milliards, non. La question, c'est l'accord politique profond entre les différents pays européens pour développer une stratégie industrielle intégrée et pour mettre en place les outils de son financement qui passent par une coopération entre le niveau européen et le niveau national. On a commencé par dire l'Europe n'est pas une puissance. La question, c'est est-ce que l'Europe se pense dans un avenir plus ou moins lointain comme puissance à la fois stratégique, militaire, économique et industrielle, et est-ce qu'elle compte s'en donner les moyens? Autrement, pour lever l'argent, je lisais avant de venir ici que le dernier emprunt européen de 100 milliards a été 11 fois sursouscrit. C'est-à-dire le monde entier se bat pour acheter de la dette européenne. Oui. Donc l'Europe n'aurait aucun mal.
Mais de la dette européenne, David Kayla dit c'est pas possible, il faut mieux le faire au niveau national.
Il a tort.
Et pourquoi a-t-il tort?
Il a tout à fait tort, parce qu'il y a une vraie demande de papier européen, parce que l'Allemagne a de moins en moins de déficits et elle émet de moins en moins de dettes. La France et l'Italie ne fournissent pas le quota nécessaire. Il faudrait un grand plan européen avec une émission de dette européenne pour satisfaire.
Malgré le fait qu'il y a 7 pays parmi les pays européens en état de déficit, malgré ça, on est désirable et les gens veulent du papier européen.
Absolument. Les gens se battent pour acheter de la dette européenne.
Mais bien sûr, mais sauf que, comme vous l'avez dit, c'est parce que l'Allemagne n'emprunte pas assez. Et donc il faut que l'Allemagne emprunte davantage. Et on n'aura pas besoin d'organiser un nouvel grand emprunt européen qui
va profondément injuste. À mon avis, c'est profondément injuste de dire chaque pays doit se débrouiller avec son emprunt, puisque vous dites ça revient.
Il faut alléger les contraintes, il faut que la BCE soutienne, accompagne, comme elle l'a fait pendant le Covid, les emprunts nationaux. Il s'agit d'organiser quelque chose qui soit à peu près juste. On a 500 milliards d'épargne en plus par an en Europe qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on surépargne en Europe. C'est pour ça que je suis d'accord avec Eli Cohen, on n'a pas de problème de trouver de l'argent. L'argent, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'épargne. Seulement, cette épargne, elle va effectivement aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de projet d'investissement, à la fois privé et public, qui va utiliser cette épargne.
C'est un problème de culture, et donc, culture de l'investissement.
Soit on fait un grand emprunt européen. Moi, je ne suis pas absolument contre l'idée de faire un grand emprunt européen, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas réussir à le mettre en œuvre politiquement. Donc, ça va durer 10 ans, on ne trouvera pas les recettes fiscales pour le rembourser.
Est-ce que vous pensez que la Banque Centrale Européenne peut faire les prêts.
Oui, terminez votre question. Non, et après, on va parler
la Banque Centrale Européenne n'a pas fait les prêts. La Banque Centrale Européenne a accompagné, en faisant du quantitative easing, elle a accompagné la baisse des taux d'intérêt.
Il faut au niveau européen qu'au niveau national.
Et oui, parce que je pense qu'il y a deux raisons. C'est-à-dire, un, c'est profondément injuste entre des pays qui, comme l'Allemagne, ont des comptes assez équilibrés et donc peuvent emprunter beaucoup à des conditions financières plus basses que la France, l'Italie ou l'Espagne. Et donc, il y a des pays qui pourront faire ces grands emprunts et donc investir massivement dans les technologies demain. Puis il y a des pays, ben, c'est pas grave, on dirait...
Il faut les accompagner
avec qui ?
Avec la Banque Centrale Européenne qui rachète les dettes publiques.
Mais c'est interdit.
Cette idée. Non, elle l'a fait.
Pas tous en même temps.
Elle l'a fait, la Banque Centrale Européenne. Elle l'a fait pendant le Covid.
Un mot et après un Ndiaye. Pas tous en même temps. Eli Cohen.
Cette idée qu'il faut retourner au niveau de chaque pays pour trouver des solutions individuelles, c'est une immense régression par rapport à toute la réflexion qu'on a développée, par exemple en matière de santé et de pharmacie, où on a vu qu'on ne pouvait pas avoir une autonomie stratégique dans ces domaines-là pendant le Covid. Si on ne pensait pas au niveau européen et si on ne développait pas des programmes européens, c'est comme ça qu'on a lancé les fameux PIEC. C'est la même chose pour les composants électroniques. Nous ramener à l'État-nation avec des petites subventions, alors, c'est une immense régression.
Alors, il faut collaborer... et qu'il faut accompagner. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Je ne dis pas que chaque État fasse ce qu'il veut.
On va évoquer avec Anna une des préconisations du rapport Draghi qui évoque le manque d'investissement dans le domaine de la défense. Vous répondrez après, Anna.
Oui, alors l'industrie de la défense, elle a besoin d'investissements massifs et notamment pour rattraper son retard, on l'a dit depuis le début de cette émission, par rapport à la Chine et aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré Mario Draghi. Il faut dire qu'en 2023, la plupart des États membres de l'Union européenne ont dépensé entre 1 et 2% de leur PIB dans le domaine militaire, des dépenses qui ont certes augmenté depuis l'invasion en Ukraine par la Russie en 2022, mais qui restent à ce jour encore insuffisantes. En chiffres, cela représente 270 milliards d'euros de dépenses pour l'Europe contre 850 milliards pour les États-Unis. Alors, pour tenter de rattraper ce retard, Mario Draghi propose une refonte complète de l'industrie de défense avec cet objectif d'investir mieux, d'investir ensemble et d'investir européen. Il préconise d'abord d'augmenter les dépenses, on le disait tout à l'heure, en recherche et développement, de moins taxer les entreprises du secteur, de ne produire par exemple qu'un seul type de char à l'image des États-Unis, alors qu'aujourd'hui il en existe 12 types en Europe. Alors il y a bien sûr le projet de char du futur franco-allemand, le MGCS, qui est déjà dans les tuyaux, mais malheureusement il ne devrait voir le jour qu'en 2045, pas tout de suite donc. Et enfin, il réclame la fusion, et là c'est intéressant, des grandes entreprises de défense pour mutualiser les coûts et la création d'un stock stratégique de minerais et matériaux critiques, évidemment pour diminuer la dépendance vis-à-vis d'autres puissances. David Kella, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dupliquer un modèle qui a bien fonctionné en termes de synergie européenne pendant plus de 50 ans, le cas d'Airbus?
Oui, alors Airbus, ce n'est pas un projet européen. C'est un projet intergouvernemental. Et moi, je ne suis absolument pas contre le
c'était
fait...
C'était les prémices, en tout cas, le projet européen.
Non, parce que c'était avec des gens qui n'étaient pas dans l'Union européenne, ce n'était pas avec tous les pays européens. Si vous voulez un projet européen, vous prenez Galileo, mais pas Airbus. Ce n'est pas un projet qui émane de l'Union européenne. Mais peu importe. Là, il s'agit de coopération industrielle. Bon, j'en suis évidemment favorable. Encore une fois, je ne suis pas pour dire qu'il faut que chacun fasse sa politique dans son coin. Par contre, on a quand même un problème avec les traités européens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une industrie en Europe. Mais regardez les avions qu'achète la Pologne. C'est les avions américains, c'est les F-35. Donc si on ne protège pas un peu aussi, c'est-à-dire si on n'accorde pas un privilège à nos industriels lors des commandes publiques, eh bien, on risque de se retrouver avec la production d'une industrie de défense, mais les Polonais ayant très envie de garder des bonnes relations avec les États-Unis.
Mais ce n'est pas une question de protection du marché européen sur la commande des F-35, c'est une question géopolitique. C'est pourquoi, effectivement, pourquoi n'achète-t-il pas des Rafales et pourquoi
si vous voulez créer une géopolitique.
Elle pourrait légiférer là-dessus et imposer à tous les États membres d'acheter européen.
Elle le pourrait si elle changeait les traités et si elle changeait l'interprétation de ces traités.
Donc ça veut dire qu'il faut que les 27 États soient d'accord pour le faire.
Donc ce n'est pas simplement une question d'organisation de la production d'une industrie, c'est aussi revoir l'achat de ce matériel.
Élie Cohen, on parle de moteur, mais est-ce qu'il ne faut pas un moteur politique aujourd'hui sur les 800 milliards, par exemple? Quel leader européen a la puissance de frappe suffisante pour dire « il faut y aller » Emmanuel Macron est faible politiquement en France, Olaf Scholz l'est également en Allemagne. Qui reste-t-il ?
Cet exemple de l'industrie de défense est un bon exemple. Ce que dit Mario Draghi, c'est qu'en gros, chacun des pays a un champion national. Globalement, au niveau européen, on a ce qu'il faut dans l'ensemble des palettes technologiques en matière de défense. Par contre, chaque fois qu'on a voulu créer une agence européenne intégrée de défense ou une agence européenne d'armement, ça n'a pas marché. Chaque fois qu'un pays a dû s'approvisionner, il a fait son choix sur la base de considérations politiques intérieures, et c'est souvent le choix américain qui a triomphé, et donc il propose maintenant de changer vraiment de méthode, il propose qu'on mette les moyens ensemble pour financer ensemble de la recherche, pour qu'on favorise des regroupements. Pour la première fois, dans un rapport européen, on dit que la politique industrielle, la politique technologique et la politique de la concurrence doivent aller de pair. Jusqu'à présent, on considérait que la politique de la concurrence était reine. Là, on dit non. Et dans les rapports qu'on doit avoir avec les grandes puissances, notamment avec la Chine, ce que propose Draghi, c'est qu'on utilise et l'arme de la concurrence, et l'arme industrielle, et l'arme technologique, de manière intégrée.
Même question qu'à Élie Cohen. Qui serait ce moteur avec effectivement une France
Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
aux abois et une Allemagne affaiblie.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
qui va engager
Emmanuel Macron rêvait d'avoir ce costume-là. En fait, on voit que là, l'influence de la France est quand même très érodée. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec la démission assez fracassante du commissaire européen Breton remet quand même une pièce dans la machine. Et on voit bien qu'en Allemagne aussi, la coalition de Olaf Scholz est totalement bancale.
Ce qui vous fait dire que ce rapport est morné. C'est pour ça que vous dites ça.
C'est ça. Donc, sur le constat, on est tous d'accord pour parler de déclassement.
Sur l'élan salvateur, d'où viendra-t-il?
L'élan politique. Certains disent, alors moi je ne suis pas pour défendre cette idée, mais que paradoxalement, une élection de Donald Trump pourrait inciter finalement au réveil.
L'Europe à se prendre en main désespérément, mais de manière déterminante.
Surtout si Trump met sa menace de sortir de l'OTAN.
Écoutez, je pense qu'on en redébattra ici un de ces jours. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.